Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, une auxiliaire puéricultrice en garde à vue à Lyon après la mort d'un bébé de 11 mois dans une crèche. Dans ce journal également, les syndicats de la SNCF qui appellent à la grève générale pour le 6 juillet. Et puis tous myopes en 2050, 60% des Français devraient être touchés en cause. Les écrans, notamment.
Nos deux sujets du jour. D'abord, retour sur ces trois plaintes pour viol déposées contre le docteur Zakharopoulou, la nouvelle secrétaire d'État chargée du développement. Pourquoi parle-t-on de viol? Et puis, notre baromètre BVA, 56% des Français satisfaits de la nouvelle Assemblée.
Et justement, notre question du jour sur RTL.fr. Allez-vous suivre les échanges dans cette nouvelle Assemblée nationale? Vous dites oui à 33%, non à 61%. Notre météo, c'est avec vous, Céline Dacosta. Bonjour Céline.
Bonjour Amandine. Bonjour à tous.
Et on a encore 5 départements en alerte orange.
Oui, en alerte pour ces orages qui ont été particulièrement virulents ces derniers jours. Alors on les retrouve de l'Alsace aux Alpes cet après-midi. Les plus forts seront localisés de l'Ardèche aux Savoies, là où il reste des départements vigilance. La bonne nouvelle, c'est que la vigilance devrait être levée en fin de journée. Les orages vont s'évacuer vers l'est et sortiront du pays. Pour le reste du territoire, c'est une alternance d'éclaircies et d'averses parfois orageuses, mais pas intenses. Il reste du soleil près de la Méditerranée et une nouvelle perturbation pluvieuse. Celle-ci arrive par la Bretagne. Les températures sont en baisse. 20-25 degrés en moyenne, 27 à 29 près de la Méditerranée.
Merci Céline, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc ce drame à Lyon. Un bébé de 11 mois est mort mercredi matin dans une crèche privée du 3e arrondissement de la ville. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
D'après les premiers éléments, la petite fille a été intoxiquée.
Oui, et c'est pour comprendre les circonstances de ce drame qu'une auxiliaire en puériculture est en garde à vue depuis mercredi après-midi, quelques heures après le décès de la fillette, malgré l'intervention rapide des pompiers qui ont tenté en vain de la réanimer peu après 8 heures du matin. Le bébé a été intoxiqué quelques minutes seulement après avoir été déposé dans cette micro-crèche privée qui accueille 9 à 10 bambins, fermée évidemment depuis l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, la direction de l'établissement évoque l'ingestion par l'enfant de peinture, de la gouache et des cristaux de sel. Explication peu convaincante aux yeux des policiers. Au regard des premières constatations, la fillette avait des traces de brûlures aux mains, au visage et sur la bouche. L'hypothèse d'une intoxication avec des produits caustiques, produits ménagers type Javel, est privilégiée. On ne sait pas encore combien de salariés étaient présents à l'ouverture. Il faut au moins une personne qualifiée pour encadrer 6 enfants. Pour l'instant, la direction nationale du groupe privé qui gère plus de 750 crèches depuis 20 ans, se refuse à tout commentaire.
Frédéric Perruche, le correspondant de RTL à Lyon.
Dans l'actualité également, cette nouvelle pagaille en perspective dans les gares.
3 des 4 syndicats de la SNCF appellent à une grève générale le 6 juillet, veille du début des vacances scolaires. Ils réclament des augmentations de salaire. Thomas Cavel est le secrétaire général de la CFDT Cheminots.
On entend évidemment cette question de corrélation avec les vacances scolaires. Ce que nous disons en revanche, c'est que c'est bien le calendrier des négociations qui a été posé à ce moment-là. Mais si le calendrier a été posé à ce moment-là aussi, ça montre bien évidemment l'urgence qu'il y a à traiter cette question des salaires et des impacts de l'inflation sur les conditions réelles et économiques pour les salariés et pour les citoyens.
Ce préavis, il n'est valable que pour cette journée-là ou alors il est possible que ce soit plus long?
Non, à ce stade, évidemment, le préavis ne concerne que cette journée. Pour ce qui nous concerne, nous sommes sur cette démarche-là.
La CFDT Cheminots, joint pour RTL par Arnaud Touche. Grève générale donc le 6 juillet. Aujourd'hui, ce sont les personnels d'Île-de-France qui sont en grève, ceux du Transilien et des RER. Si vous devez vous rendre au Stade de France d'ailleurs ce soir pour la finale du Top 14, prenez plutôt la ligne B plutôt que la D.
En grève également les salariés de Total Énergie.
La CGT, syndicat majoritaire, dénonce là des hausses de salaire très en deçà des bénéfices, Éric Vanier.
Oui, avec l'envolée des cours du baril de pétrole, les bénéfices de Total Energy se sont envolés rien que pour le premier trimestre, sur 3 mois seulement, près de 5 milliards de dollars d'excédent. Et encore, si le groupe n'avait pas décidé de ralentir ses activités en Russie, ce chiffre serait encore plus énorme. Comme le prix du pétrole n'est pas prêt de baisser, les bénéfices de Total Energy atteindront sans doute les mêmes sommets au deuxième, troisième et quatrième trimestre. Parallèlement, les 35 000 salariés du groupe regardent leur feuille de paye et n'y trouvent pas leur compte. 2,35% d'augmentation en début d'année et depuis, rien, alors que l'inflation a franchi le cap des 5%. La CGT donc réclame un nouveau round de négociations salariales. La direction fait la sourde oreille, d'où les débrayages d'aujourd'hui, notamment dans les raffineries.
Éric Vanier du service économie de RTL.
Elisabeth Borne était ce matin à Center Park.
Alors pas pour des vacances, mais au contraire, pour montrer qu'elle est bel et bien là, Thomas Després.
Oui, et elle veut montrer qu'elle n'a rien d'une première ministre en sursis. Alors, malgré les rumeurs, les critiques venues de son propre camp et surtout l'absence de soutien affiché clairement du président, ce matin, Elisabeth Borne fait comme si de rien n'était. Au contact de jeunes apprentis, elle se prête au jeu des photos avec des touristes, fait la promotion de son bilan comme ministre du Travail. Bref, tout faire pour montrer qu'elle est encore à la barre.
C'est pas une manière de montrer, c'est le fait que je suis à la tâche, qu'on est à l'action, qu'il y a des sujets à traiter, qu'on les traite.
Voilà, Elisabeth Borne veut tellement se montrer au travail que son équipe vient à l'instant de nous faire parvenir son agenda de la semaine prochaine. Et je peux vous dire que pour sauver sa place, elle compte bien se montrer partout. Des rendez-vous tous les jours et des déplacements sur le terrain. Même si selon notre dernier sondage BVA pour RTL, 6 Français sur 10 souhaitent qu'elle ne reste pas Première ministre.
Thomas Després en Seine-et-Marne pour RTL. Mercredi soir, lors de son allocution, Emmanuel Macron avait donné 48 heures aux oppositions pour se prononcer, coalition ou accord texte par texte. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
On arrive au bout de ces 48 heures, on en est où ?
Eh bien nulle part, Amandine. On est toujours dans le plus grand des flous. On est toujours dans le plus grand des flous car les oppositions avaient déjà donné leur position avant même la prise de parole du président. Depuis, elles n'ont pas bougé d'un iota. La Macronie a passé les dernières 48 heures à essayer de débaucher des députés d'autres groupes pour former une coalition et élargir la majorité. Mais pour l'instant, chou blanc, aucun nom n'est encore sorti du chapeau. À droite, notamment, les députés LR qui ont sauvé leur peau sont du genre dernier des Mohicans et ne veulent surtout pas se faire absorber par En Marche. Emmanuel Macron s'achemine donc vers des compromis au cas par cas, texte par texte. Mais là aussi, les oppositions affûtent déjà leur lame. Selon les informations de Vincent Derosier, le groupe LR prépare un contre-projet, pouvoir d'achat, qu'il présentera la semaine prochaine. Même chose pour LFI qui prépare un texte avec notamment le SMIC à 1500 euros. Donc pour l'instant, dans l'opposition, c'est l'heure des revendications et pas du tout celle des concessions et des compromis.
Marie Mollet du service politique de RTL, l'Assemblée où les députés se sont vus proposer cette semaine une formation autour du réchauffement climatique. 20 à 30 minutes avec des scientifiques de renom. Bilan, seuls 154 sont venus. C'est ce qu'expliquait ce matin sur RTL François Gemen, climatologue et membre du GIEC.
Il y a des députés qui vous ont dit « mais moi je m'en fous du climat ».
Il y en a un, Nicolas Dupont-Aignan. Il a eu l'honnêteté et la franchise de le dire. Il est possible que d'autres l'aient pensé sans le dire. Globalement, les 154 députés qui sont venus se répartissaient à peu près à parts égales entre la NUPES et La République En Marche ou ensemble, la majorité gouvernementale.
François Gemen, invité ce matin d'Alba Ventura sur RTL.
À Bruxelles, suite et fin du sommet européen.
Il est ce matin question de sécurité alimentaire et d'énergie. Hier soir, échange autour de l'idée d'Emmanuel Macron d'une Europe élargie, la communauté politique européenne. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous.
Quel intérêt ? C'est une couche de plus ou c'est vraiment utile cette communauté ?
Eh bien, il s'agit de créer une nouvelle force géopolitique face à la Russie, basée sur les valeurs de démocratie, de dire à tous « Vous faites partie de la famille européenne tout de suite, sans passer par le frustrant processus de la candidature », de discuter ensemble, par exemple, sur l'approvisionnement énergétique, sur la lutte contre la criminalité organisée d'une manière plus souple, d'introduire le libre-échange européen tout doucement chez nos voisins. Alors, dans cette confédération européenne, on trouverait les 27, bien sûr, plus tous les candidats qui veulent entrer dans l'Union européenne, de l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, à la Bosnie-Herzégovine, en passant par l'Albanie, les Balkans occidentaux donc, plus la Norvège et la Suisse, nos deux puissants voisins. Le Royaume-Uni, après le Brexit, pourquoi ne pas intégrer cette nouvelle entité ? Et puis un gros point d'interrogation sur la Turquie. Première réunion envisagée à Prague à l'automne prochain.
Bénédicte Tassard à Bruxelles pour RTL. En Ukraine, 121e jour de guerre, les forces du pays ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk, cette ville de l'Est, théâtre de violents bombardements avec l'armée russe, bombardée depuis des semaines, sans doute une étape cruciale dans la conquête du Donbass.
Le Covid est la 7e vague qui est bien là.
C'est ce qu'indique ce matin Gilles Pialoux, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, et ce alors que le nombre de cas continue de progresser, plus 50% en une semaine, multiplié par 3 en 3 semaines. Autre épidémie, non contagieuse celle-là, mais la menace visiblement est bien réelle, c'est la myopie, quand on voit flou de loin. Elle touche aujourd'hui 40% des Français, à peine 15% dans les années 50. Et on devrait être à 60% de myopes en 2050. Vous faites moyen
oui,
de la
parce
main.
Que quand on dit 15% dans les années 50, c'est que les gens n'allaient peut-être pas chez l'ophtalmo.
Aussi peut-être, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le phénomène d'augmentation est bien là, en cause notre mode de vie. Écoutez à ce sujet le professeur Brémond Gignac, elle est chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris.
La vision de près est beaucoup plus sollicitée avec des temps sur les écrans et en particulier les consoles, les tablettes de façon beaucoup plus accrue. Ce qui veut dire qu'il y a une sollicitation de l'accommodation et de la vision de près qui est beaucoup plus importante. D'autre part, les gens sont beaucoup plus à l'intérieur, les enfants sont plutôt confinés, ils sont moins exposés à la lumière extérieure. Et pourquoi en fait cette lumière est importante? C'est que la lumière extérieure est une lumière qui est diffuse et qui est très équilibrée. Par contre, la lumière intérieure, elle est plus toxique pour justement le développement de l'enfant. Les complications de la myopie peuvent être très graves, elles sont potentiellement malvoyance, risque de glaucome et de risque de cataracte jusqu'à la cécité.
Un propos recueilli pour RTL par Odile Pouget.
Et donc du rugby ce soir au Stade de France, avec la finale, mais pas de train.
Mais non, enfin si, parce que je vous ai dit, vous n'avez pas écouté, la ligne B du RER, elle fonctionne, c'est la D sur laquelle vous avez des problèmes. Donc pour cette finale du top 14, Castres-Montpellier, Daniel Herrero, ancien manager de Toulon et grande voix du rugby, nous promet un bon ragoût.
Les deux équipes vont arriver gorgées d'énergie, gorgées d'ambition. Les Montpelliérains n'ont pas encore une fois eu le privilège, j'allais dire, de connaître la gloire turgescente d'un bouclier de Brennus. À la sortie, ça annonce un match, pas forcément de la catégorie des ragoûts, mais c'est possible, et peut-être même un ragoût d'excellente qualité.
Ragoût d'excellente qualité, nous dit Daniel Herrero au micro RTL de Jean-Michel Rascol. Castres-Montpellier, c'est à suivre, bien sûr, sur RTL ce soir, soirée spéciale dès 20h.
Une posée dans un instant, donc retour sur ces trois plaintes pour viol déposées contre le docteur Zakharopoulou, la nouvelle secrétaire d'État chargée du développement. Pourquoi parle-t-on de viol? On répond à cette question dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Au rendez-vous, elle est arrivée en retard, en tenue de sport avec un sac de sport. Elle ne m'a pas regardée dans les yeux. Elle m'a dit de m'allonger. Elle ne m'a pas prévenue. Elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que c'était un poing qu'on m'enfonçait. J'ai eu très mal, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Et elle a dit, là, normalement, vous devriez crier. Cette phrase m'a sidérée, en fait. J'ai osé demander si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit « Mais ma pauvre, vous avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile. » Et je me suis mise à pleurer. Je ne comprends pas ce que cette femme fait au gouvernement en disant que les femmes, c'est une cause importante alors qu'elle leur fait du mal.
Ce témoignage, c'est celui d'une ancienne patiente du docteur Zakharopoulou, la nouvelle secrétaire d'État chargée du développement. Elle a pour l'instant choisi de ne pas porter plainte, contrairement à trois autres femmes. Deux d'entre elles accusent la gynécologue de viol. Bonjour professeur Nizan.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien et ancien président du Collège national des gynécologues. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Le Collège national qui rappelle ce matin qu'il porte bien sûr la plus grande attention aux plaintes exprimées par les femmes. Je lis le communiqué, mais qui se dit toutefois très inquiet par l'usage du mot viol. C'est aussi votre sentiment ?
Oui, cet usage du mot viol inquiète toute la profession. Car le viol sous-entend une intentionnalité sexuelle et que les médecins qui font un examen physique des femmes le font d'une part avec le consentement des femmes qui s'installent pour être examinées, mais également dans l'intérêt médical des femmes. Et bien entendu, s'il n'y avait plus d'examen physique, il n'y aurait plus de dépistage des cancers, il n'y aurait plus de précision sur le diagnostic. Et tous les gynécologues de France sont aujourd'hui inquiets qu'on puisse utiliser l'incrimination de viol alors qu'il ne s'agit jamais d'une intentionnalité sexuelle.
Professeur, vous restez avec nous. Thomas Proutot du service police-justice de RTL est avec nous justement pour essayer de comprendre. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Viol, c'est une qualification juridique. Là, on est dans le cadre d'un acte médical. Est-ce que le viol a forcément un caractère sexuel ?
Alors, c'est tout le débat qui vient d'être lancé. Matériellement, pardon, dans le code pénal, c'est défini le viol comme une pénétration sexuelle par violence, menace, contrainte ou surprise, ce que décrivent les patients de la secrétaire, les anciennes patientes de la secrétaire d'État qu'on a entendues notamment sur RTL. peut correspondre à cela, notamment quand elle parle d'absence de consentement explicite. Mais une infraction, et c'est ce que rappelait le professeur Nizan, exige aussi que l'intention soit constituée. C'est là qu'il va y avoir débat. Est-ce que les gynécologues visés par des plaintes pour des actes brutaux dans le cadre d'examens médicaux avaient une intention sexuelle? Cela promet un long débat dans les juridictions.
Et d'ailleurs, dans l'affaire Dara et l'autre affaire dont on avait beaucoup parlé, les plaintes avaient été déposées pour viol, mais l'enquête, elle est pour violence.
Pour violence aggravée, l'analyse du parquet de Paris à ce stade, c'est que justement, les faits ne sont pas constitutifs de viol, car il n'y a pas d'intention sexuelle. Décision scandaleuse, selon une avocate qui représente près de 20 patients du professeur Darraille. Débat donc très technique, vous l'entendez, mais évidemment important.
Professeur Nizan, pardon, il y a la question du consentement. Est-ce que dès lors qu'une femme est allongée sur votre table d'examen, on part du principe qu'elle est consentante?
Non, mais une femme qui prend rendez-vous, à qui on dit « souhaitez-vous un examen ?», qui dit « oui », qui s'installe en position gynécologique, je veux bien qu'on dise après qu'elle n'était pas consentante, mais à ce moment-là, comment les gynécologues qui font leur métier par milliers et souvent dans des conditions de très grande qualité, pourront-ils prouver qu'ils ont eu le consentement? Est-ce qu'il faut faire signer des papiers? Est-ce qu'il faut avoir un témoin avec nous lorsque nous consultons? On rentre là dans des choses qui ne sont pas raisonnables. Si on obère la possibilité pour les gynécologues de faire leur métier, on détruit la santé des femmes que les gynécologues ont véritablement améliorée dans les dernières 10 années, 20 années. Et donc, il faut laisser les gynécologues faire leur travail. Bien entendu, il faut que le consentement soit constant, redit par la patiente, qu'une patiente qui a mal, qui dit stop, que le gynécologue respecte le stop. Mais dire après coup qu'on s'est installé sur une chaise gynécologique et qu'on n'était pas consentante, c'est pas crédible.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, et ça va au-delà même des gynécologues, il y a un souci entre les patients et les médecins. Avant, il y avait toujours une confiance, j'ai envie de dire deux confiances, et aujourd'hui, il y aura peut-être deux défiances. Défiance des patients et défiance du médecin.
Je ne le sens pas comme ça. Pour exercer, je sens une très grande confiance toujours présente de la part des patientes. Et dans les autres disciplines que j'ai interrogées hier, il y a la même perception par les médecins d'une très grande confiance maintenue des patients et des patientes dans ce domaine. Par contre, ce que je ressens, c'est l'effet délétère des médias. On se dépêche de pousser à une plainte pour viol en arguant du fait que les autres plaintes n'ont pas prospéré.
Si vous me permettez, ensuite, c'est pas les médias, c'est le parquet de Paris qui ouvre une enquête. C'est pas les médias.
Oui.
Moi, le procès des médias, je l'entends souvent. C'est le parquet de Paris et les médias suivent cette décision du parquet de Paris.
Le parquet ne peut pas, dans ce genre d'affaires, classer ab initio. Malheureusement, même s'il se rend compte que la plainte est abusive, il instruit la plainte. Mais c'est l'information des médias qui fait que les médecins sont condamnés sans avoir été jugés, et ceci sans appel et sans possibilité de se défendre. Ils sont salis et définitivement salis parce qu'on a voulu leur nuire pour une raison ou pour une autre.
Ça veut dire qu'une plainte est déposée et du coup on ne doit pas en parler tant qu'il n'y a pas eu de jugement, si je vous comprends bien?
Mais une plainte est déposée, n'importe qui peut se plaindre de n'importe qui, mais dire que un examen gynécologique peut donner lieu à une plainte pour viol, ça perturbe très gravement, et les gynécologues de France le disent, ça perturbe l'avenir et la santé des femmes de France.
Oui, mais monsieur Nizan, précisément, on a fait ce débat ce matin parce que nous-mêmes sommes surpris et peut-être même choqués par cette plainte qui vise madame Zakharopoulou, qui jouit d'une excellente réputation, qui est une sommité dans votre domaine, et certains effectivement étaient surpris. Donc c'est pour cela aussi qu'on a voulu faire ce débat à l'instant. Donc je ne suis pas certain que les médias puissent être responsables de la situation. Thomas Proutot.
Il y a simplement cette plainte, cette enquête du parquet de Paris, vous le soulignez, qui est ouverte de manière très, presque un juste milieu, puisqu'elle est ouverte pour violence aggravée et non pas pour viol. Donc il n'y a pas justement cette plainte qui est prise comme ça. Il y a beaucoup de prudence, une chose. D'autre part, je vais juste poser une question au professeur en disant que ça s'inscrit dans un débat sur les violences gynécologiques quand même, qui visiblement émergent et qui, celui-là, est peut-être réel et qui peut donner lieu à des procédures judiciaires, pas pour viol.
Sauf que là, Thomas, j'ajouterais, le professeur Nizan nous dira oui ou non, mais on est dans le cadre de l'endométriose et l'endométriose, par définition, c'est une maladie de douleur et pour en souffrir, je peux en témoigner, le médecin, docteur Nizan, a besoin de voir jusqu'où va votre douleur, on est d'accord ?
Je pense que dans l'endométriose, tout particulièrement, on a des femmes, affaire à des femmes qui ont une vulnérabilité du fait qu'elles souffrent depuis longtemps, du fait qu'elles sont exposées à de la stérilité, à une angoisse terrible. Et souvent, l'examen qui est indispensable pour faire le point sur l'invasion des organes de voisinage, l'examen physique est complètement indispensable. Et en plus, de surcroît, il est douloureux. Il est douloureux et... on peut y avoir en fin de consultation un désaccord entre le médecin et la patiente sur la conduite à tenir. Donc on a tous les ingrédients pour faire en sorte que la décision du médecin, même si elle a été concertée, ne soit pas acceptée par la patiente, et par l'apparition d'une rancœur à l'égard des mots qui ont été dits, à l'égard des gestes qui ont été pratiqués. Qu'il y ait une rancœur contre le médecin qui ne s'est pas bien débrouillé éventuellement et qui a peut-être eu des paroles malheureuses, on peut l'entendre. Mmh. En revanche, que ça donne une incrimination pour viol, ça, c'est pas audible.
Et c'est pour ça que nous avons souhaité en savoir davantage et comprendre. C'est ce qui nous intéressait. Merci beaucoup, monsieur Nizan. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. Dans une seconde, nous parlons du baromètre BVA. 56% des Français satisfaits de la nouvelle Assemblée.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
La popularité d'Emmanuel Macron en baisse 5 jours après le résultat des élections législatives.
3/4 des Français pensent qu'Emmanuel Macron est affaibli aujourd'hui. Elisabeth Borne Davis aussi, 41% seulement d'opinion favorable.
Moins 9 points pour Elisabeth Borne, moins 4 pour Emmanuel Macron. Clairement, l'exécutif est affaibli donc après ces législatives, des législatives dont le résultat semble en revanche convenir à une majorité de Français. 56% d'entre eux se disent satisfaits de la nouvelle Assemblée. C'est le résultat de notre baromètre BVA pour RTL et Orange. Avec nous pour en parler, William Galibert du service politique de RTL. Bonjour William.
Bonjour.
Et Christelle Craplet de l'Institut BVA. Bonjour Christelle.
Bonjour.
C'est 56% de Français, Christelle, qui estiment que la nouvelle Assemblée est une bonne chose, plutôt de nature, disent-ils, à revitaliser la démocratie.
C'est ça. Pour eux, ils pensent que c'est une bonne chose parce que ça va permettre de renforcer le rôle du Parlement, peut-être d'avoir plus d'échanges, plus de discussions. Et donc, ils sont relativement confiants dans le fonctionnement de la future Assemblée.
C'est le cas, ça, William ?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Personne ne veut faire le premier pas. Le camp présidentiel attend que les oppositions soient prêtes à faire quelques concessions. Les oppositions disent « Ah bah non, c'est pas à nous de faire, d'y aller, c'est à Emmanuel Macron de faire des concessions. » Donc, pour l'instant, on est figé. Ensuite, effectivement, si on rentre dans un système de négociation, de discussion, de concession, si on retrouve cette vitalité, pourquoi pas ? Par contre, si à partir de la rentrée parlementaire, on assiste à des sorties guérilla du groupe NUP ou d'autres oppositions, si on assiste à des situations de blocage, ça, les Français risquent rapidement de s'enlacer.
Non, mais dès lundi, on a senti avec les auditeurs que les gens sont très contents de cette Assemblée.
Oui, mais c'est ce qu'on voit, effectivement. Ils sont plutôt contents.
Mais tous, les électeurs, j'imagine, d'Emmanuel Macron.
C'est ça. Eux, ils ne sont pas très contents. Et ceux qui sont les plus contents, c'est les sympathisants de la France Insoumise ou du Rassemblement National. Et puis chacun y met aussi ce qu'il veut derrière. Chacun est content que son camp ait pu être qualifié, mais pas forcément le camp d'en face. Donc derrière, il y a quand même un certain nombre de fractures.
Alors, ils sont contents, et c'est ce qu'ils nous disent, à deux niveaux. D'abord, ils en avaient assez d'un pouvoir qu'ils jugeaient autoritaire, pour ne pas dire davantage, qui imposait tout et un Parlement qui ne servait à rien. Donc là, ils se disent qu'il y aura quand même des contre-pouvoirs à l'Assemblée. Et ils sont contents, effectivement, parce qu'ils ont le sentiment d'être représentés, que ce soit l'ANUPS ou le Rassemblement National.
Mais c'est là, Pascal, qu'on voit aussi que les Français sont très intelligents et savent très bien se servir de leur bulletin de vote.
Surtout
les auditeurs d'RTL.
Vous pourriez ajouter.
Non, et surtout, savent très bien se servir des institutions. Effectivement, il y a des critiques récurrentes contre Emmanuel Macron. On se sert du bulletin pour rééquilibrer les choses. Il ne veut pas changer sa pratique du pouvoir. On va l'obliger, quelque part, à changer cette pratique en rééquilibrant les choses à l'Assemblée.
Et ce qui prouve la force de la Ve République. Parce que quand j'entends la Ve République qui est attaquée, c'est peut-être la seule chose qui marche bien en France. Et elle permet justement cela, tellement elle est souple.
un mot encore, Christelle, sur l'autre chiffre qui nous a frappé, 34% quand même d'indifférents. C'est qui ces 34%, ceux qui n'ont pas voté?
Alors c'est un peu ceux qui n'ont pas voté parce que c'est plus les jeunes, c'est plus les ouvriers, les employés qui sont les catégories qui se sont moins rendues dans les urnes. Mais c'est pas que cela, et je pense que c'est quand même un chiffre intéressant parce que pour un grand nombre de Français, quand même un Français sur trois, moi je trouve ça quand même significatif, ça les indiffère totalement, tout ce qui se passe. Peu importe le résultat, peu importe qu'il y ait des blocages, peu importe qu'il y ait du dialogue, quelque part ça les intéresse pas, et
mais
ça, ça interpelle quand même.
Oui, mais pourquoi? Parce qu'on est confronté, notamment on a tous des enfants de 20 ans, ils votent pas forcément. Et quand on leur demande pourquoi vous votez pas, ils ont même du mal à expliquer pourquoi ils ne votent pas.
Oui, en fait, pour eux, le vote, c'est plus un moyen de s'exprimer politiquement. Ils s'expriment ailleurs, ils s'expriment sur les réseaux sociaux, ils vont s'engager pour une cause spécifique, pour un sujet, pour une manifestation, mais pas par le vote.
Eh bien, merci de ce focus sur l'Assemblée nationale et sur les Français satisfaits de cette nouvelle Assemblée. Et dans quelques instants, ce sera le rappel des titres. Et après, nous partirons avec les auditeurs pour une heure et demie. Que me dites-vous,
Rien, Amandine. Je croyais que vous aviez des... Je voulais vous aider.
Bah, mais vous m'aidez chaque jour, sachez-le, de manière très importante. À tout de suite.
RTL Midi.